chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous multiplient la grâce et la paix. Je me souviens d'un été particulièrement chaud. Avec quelques amis, nous avions assisté à une réunion dite d'évangélisation en plein air sur un petit îlot situé au milieu d'un lac. Certes, notre âme avait été bien nourrie, mais notre corps réclamait à boire. Nous avions soif et nos réserves d'eau étaient épuisées. Nous avons vécu des moments difficiles, car notre recherche d'eau a été un véritable parcours du combattant. Les divers points d'approvisionnement que nous avons visités avaient tous été dévalisés. Rien. Il ne restait plus rien. Et avec les efforts fournis, notre soif augmentait. Finalement, nous avons trouvé une petite fontaine publique et nous avons été désaltérés. Quel bonheur ! Bien-aimés, ce jour nous parlerons de la source qui désaltère et le conseil du jour sera « Amis, ne perds pas les bienfaits de cette source, car si notre corps connaît la soif, il en va de même pour notre âme, dont les aspirations au bonheur sont légitimes. Oui, notre âme éprouve des désirs de bonheur, de justice, de paix, de sérénité. Dans certaines gares de province, on peut encore trouver des petits points d'eau pour se laver les mains et se rafraîchir. Mais attention, au-dessus du robinet, il y a une précision écrite en gros caractères. Je cite « Eau non potable, eau impropre à la consommation. Passer outre pour se désaltérer parce que l'on a une grande soif conduit à s'exposer à des maux d'estomac plus ou moins sévères. Non potable, une situation semblable avec la déception qui en découle, est rapportée dans les Écritures. Je lis Exode chapitre 15, versets 22 à 25. Les Israélites, conduits par Moïse, quittèrent la mer des roseaux et se dirigèrent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Lorsqu'ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas y boire l'eau qui s'y trouvait, car elle était amère. De là vient le nom de Mara qui signifie « amertume ». La foule se mit à protester contre Moïse et à dire « Qu'allons-nous boire ?» Moïse implora le Seigneur qui lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau et l'eau devint buvable. Voilà donc un peuple pressé par la soif. Après 3 jours de marche dans le désert, les réserves d'eau sont épuisées et la soif est grande. Et après l'espoir, en apercevant le point d'eau de Mara, la déception. Impossible de boire. Eau non potable. Et comme par un réflexe bien humain, le peuple proteste, se plaint de Moïse, murmure. Il faut toujours un coupable, un responsable aux difficultés, aux malheurs qui peuvent nous atteindre. J'ai même remarqué ceci. Certains rendent Dieu directement responsable de ce qui les atteint. Et il l'exprime par ces mots. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle chose ? Par contre, s'ils réussissent dans une entreprise, pas un seul instant, ils n'envisagent que Dieu ait pu leur donner un coup de pouce. Dans le cas du succès, cela est dû à leur ingéniosité, à leur compétence. Tiens donc. Mais alors, question, et si leurs échecs étaient simplement une conséquence de leur mauvais choix ? Dieu, parlant par la bouche du prophète Jérémie, dénonce une attitude insensée du peuple. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes. Et ce sont des citernes fissurées, incapable de retenir l'eau. La source qui désaltère, c'est le Seigneur. Le psalmiste, au psaume 107, rappelle comment Dieu est intervenu dans le désert pour secourir ceux qui ont fait appel à lui, et il encourage tous ceux qui ont expérimenté son secours en ces mots, je cite, « Qu'il loue donc le Seigneur pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des humains, car il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif, et ceux qui mouraient de faim, il les a comblés de tout le nécessaire. » Psaume 107, versets 8 et 9. Il a donné à boire à ceux qui défaillaient de soif. Bien-aimé, as-tu soif de justice, de paix, de bonheur? Regarde au Seigneur, appelle-le à ton aide. Il peut et veut désaltérer ta soif. Il est le seul capable de répondre à toutes les aspirations de notre âme. L'étape de la traversée du désert, qui a duré 40 ans, du temps de Moïse, en est un exemple parmi d'autres. Malgré les incrédulités, les murmures et les interrogations, Dieu a montré qu'il pouvait dresser une table dans le désert. Nous pourrions nous poser des questions à propos de la réaction du peuple. Comment, après avoir vu le miracle de la Pâque, où ils ont été épargnés, puis l'ouverture de la mer traversée à pied sec et l'anéantissement des troupes de Pharaon, comment pouvaient-ils douter et murmurer? Mais nous sommes de la même nature qu'eux, et à leur place, qui peut dire comment nous aurions réagi? L'apôtre Paul, sous forme d'allégorie, écrit, je cite, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Après l'étape de Mara, où l'eau était non potable, les voici maintenant à Réphidim, où le problème de l'eau se pose une nouvelle fois. Je lis Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Soulignons la parole de Dieu à Moïse. « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Nouvelle évocation du sacrifice de Jésus à la croix. Comme annoncé par le prophète Ésaïe, le Christ a été humilié, car abaissé au rang de malfaiteur, puis frappé du châtiment que devaient subir les pécheurs. Sa mort expiatoire a ouvert pour nous les sources de la grâce divine. C'est de lui, Jésus, que viennent les sources abondantes après lesquelles, parfois, nous soupirons sans le savoir. Le grand soir de la fête, le jour le plus solennel à Jérusalem, Jésus a lancé à pleine voix cette invitation, je cite, Jean chapitre 7, versets 37 et 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être. La source est disponible. Alors, quand on a soif, la route est toute tracée. Bien-aimé, viens à lui. Dis-lui simplement ta souffrance, tes attentes. Dis-lui ce que ton cœur désire. Voici maintenant un épisode qui s'avérera lourd de conséquences pour Moïse. Le peuple fait étape à Kadès. À nouveau, l'eau vient à manquer. Et à nouveau, le peuple s'en prend à Moïse et à Aaron, qui, s'éloignant de l'attroupement, se rendent à l'entrée de la tente de la rencontre. Là, le Seigneur dit à Moïse, je cite, « Prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Et ils ont rassemblé le peuple devant le rocher désigné. L'Écriture nous précise que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Là, à Kadès, il est comme poussé à bout. S'adressant à l'ensemble des Israélites, il dit « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Et alors que l'instruction, divine parole, est de parler au rocher, Moïse lève le bras et frappe deux fois le rocher avec son bâton. Aussitôt, l'eau jaillit en abondance et hommes et bêtes peuvent se désaltérer. Mais le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Terrible sanction pour Moïse. Pourquoi ? À propos de cet événement, on parle de l'eau de Meriba, l'eau de la querelle. Car les Israélites ont cherché querelle au Seigneur. Mais le Seigneur s'est servi de cet événement pour manifester qu'il est le vrai Dieu. Nombre chapitre 20, verset 13. Au psaume 106, versets 32 et 33, nous lisons ceci. « Ils ont irrité Dieu près des eaux de Meriba, et Moïse a été puni à cause d'eux, car ils l'ont exaspéré, et il a parlé sans réfléchir. » Lors de la première contestation à Réphidim, l'instruction divine était « Tu frapperas le rocher ». Là, à Kadès, l'instruction est « Tu parleras au rocher pour qu'il donne son eau ». Le rocher est un symbole du Christ. Comme nous l'avons dit, la source qui désaltère. Nous avons dans l'Épître aux Hébreux un élément clé pour éclairer la sanction qui a atteint Moïse. Je lis Hébreux chapitre 9, verset 28. Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Le rocher est frappé une seule fois. C'est suffisant. Oui, Christ est mort pour nous. En lui, nous avons tout pleinement. Il nous suffit de parler au rocher et l'eau coule. Un cantique dit « De la croix, la grâce coule comme un fleuve, constamment. Alléluia !» Le temps est venu de faire maintenant une pause musicale.
Je revis, par la foi je proclame que tu donnes et redonnes la victoire en ton nom. Et je bois au puits de ta lumière, cette eau de l'au-delà. Remplis-moi, ta grâce me libère.
La source qui désaltère, c'est le Seigneur. Transportons-nous maintenant près d'un puits autrefois célèbre. Jésus remonte de la Judée vers la Galilée. Chemin faisant, il arrive près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assoit au bord du puits. Il est environ midi. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Précisons ceci. À ce moment précis, Jésus est seul, car ses disciples sont allés à la ville pour acheter de quoi manger. Une entrevue sans témoin, donc. Réponse de la femme ainsi sollicitée, je cite, « Mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» Sa réaction est normale, car les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Une affaire qui remonte à de nombreuses décennies. Autant d'Osée, fils d'Ella, devenu roi d'Israël à Samarie. Salmanazar, roi d'Assyrie, est venu l'attaquer. Vaincu, Osée doit payer une redevance annuelle. Pour échapper à cette tutelle, le roi Osée fomente un complot. L'ayant appris, le roi d'Assyrie vient assiéger la ville. Il s'en empare et déporte les Israélites en Assyrie. Il les établit à Hala, et sur les rives du Habor, dans la région de Gozan, ainsi que dans les villes de la Médie. À leur place, le roi d'Assyrie fait venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamat et de Sepharvaïm pour les installer dans les localités de la Samarie. Ces gens ont pris possession de la région et se sont installés dans les localités. Mais ils ont été victimes de lions. Alors on a informé le roi d'Assyrie du fait que, je cite, « les populations déplacées et installées dans les localités de la Samarie ne connaissent pas le culte du Dieu de ce pays, de sorte que le Dieu a envoyé des lions pour les faire mourir. En réponse à cette situation, le roi ordonne de ramener en Samarie un des prêtres qui avait été déporté et de l'y installer pour qu'il enseigne aux gens la façon de rendre un culte au Dieu du pays. Ce prêtre s'est installé à Bethel et il a enseigné aux habitants comment adorer le Seigneur. Toutefois, ces populations étrangères se sont fabriquées des statues de leurs dieux et les ont dressées dans les sanctuaires construits par les anciens habitants de la Samarie. Chaque population a fait cela dans les villes qu'elle occupe, de sorte que, d'une part, ils adorent le Seigneur et de l'autre, ils servent leur Dieu selon les coutumes de leur pays d'origine. Les Juifs les méprisent et ne veulent aucune relation avec eux. Jésus, au contraire, va montrer de l'intérêt pour cette femme et lui demande à boire. Elle fait part de son étonnement. Jésus lui répond, je cite, « Si tu connaissais ce que Dieu donne, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme, ne comprenant pas le langage imagé de Jésus, lui réplique, « Maître, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. » Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau, ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Dans sa réponse, Jésus devient plus précis et fait la distinction. Je cite, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Cette parole est suffisante pour éveiller une soif nouvelle chez cette femme. Oui, elle veut de cette eau qui désaltère vraiment. Pour engager la conversation, Jésus avait demandé à boire. Maintenant, c'est la femme qui demande. Elle dit, « Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Elle exprime sa lassitude. Comme il n'y a pas de témoin, Jésus va directement toucher au problème de sa vie. Ouvrons une parenthèse pour souligner la délicatesse de Jésus. Lorsqu'il y a des témoins, Jésus procède autrement. Dans la maison de Simon le pharisien, Jésus usera de la parabole des deux débiteurs pour répondre au regard méprisant de cet homme dur et pécheur. Il n'a pas cherché à l'humilier. Il était facile pour Jésus, comme dans le cas de la Samaritaine, de dire clairement ce qui n'allait pas dans sa vie. Mais il ne l'a pas fait. Ce que le Seigneur désire, c'est que le pécheur se repente et change de conduite. Sans témoin donc, Jésus dit à la femme, « Va chercher ton mari et reviens ici. » Réponse de la femme, « Je n'ai pas de mari. » Alors Jésus lui déclare, « Tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari. » Car tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Jésus touche le point sensible de sa vie et toute son insatisfaction. La femme s'éclame. Maître, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Réponse de Jésus, crois-moi, le moment vient où vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'honorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Je le suis, moi qui te parle. » Oui, la source qui désaltère, c'est le Seigneur. Au psaume 42, une confrérie de chantres exprime une grande soif de Dieu vécue au milieu de grandes épreuves, comme une réaction au découragement dans la foi qui met en Dieu toute son attente. Je lis psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Bien-aimé, tourne-toi vers le Seigneur. Les psaumes peuvent nous servir de modèle et nous inciter à prier Dieu en reprenant les paroles d'espoir qui y sont exprimées. Bien-aimé, dis simplement au Seigneur, comme un appel au secours, comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. À la croix, Christ le rocher a été frappé une fois pour toutes. Il est mort pour expier nos péchés. Comme le déclare l'apôtre Pierre, je cite, « Jésus est celui dont l'Écriture affirme, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, est devenue la pierre principale. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. » Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Par qui nous pourrions être sauvés. Là, il est nécessaire de préciser si nous le voulons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pour autant, il nous laisse libres et le choix nous appartient. Hélas, l'Écriture fait mention de, je cite, « ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Je cite aussi Marc chapitre 16, verset 16, « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Comme le déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous disons nous aussi, pour ce qui nous concerne, nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. La source est là, tout près de notre cœur. Mais divers obstacles peuvent nous empêcher de boire. J'en soulignerai trois. L'ignorance de la source, le mépris de la source et la tradition. Avant de les considérer, écoutons une nouvelle page musicale.
Viens voir mon âme, c'est tout de l'au-delà. Vive et t'en régale, son cœur ne tarit pas. Son amour est ma terre, l'éternel est ma joie. Parfum de mes prières, le ciment de ma foi.
De l'ombre à la lumière, il n'y a qu'un seul pas. J'ai franchi la frontière, l'esprit vit en moi. Je gagne la guerre, ses ombres contre moi s'enfuient et me libèrent.
La source est là, près de nous. Toutefois, divers obstacles peuvent nous empêcher de boire. Alors, il vaut la peine de les identifier pour les contourner et ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Le premier obstacle est l'ignorance de la source. Sarah, épouse d'Abraham, avait poussé son mari à aller vers sa servante pour avoir un fils par elle. Méthode des mères porteuses. Quelques années plus tard, Sarah, qui a miraculeusement enfanté, demande à Abraham de renvoyer la servante et son fils. Elle le fait en ces termes, je cite, Genèse chapitre 21, verset 10, « Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles font beaucoup de peine à Abraham parce qu'Ismaël est aussi son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et de son enfant. Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Quant au fils de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une nation, car il est ton fils. » Tôt le lendemain matin, Abraham prend du pain et une outre remplie d'eau qu'il donne à Agar. Il lui remet aussi l'enfant et la renvoie. Elle s'égare dans le désert de Beersheba. Quand l'outre est épuisée, elle abandonne l'enfant sous un arbuste, puis elle va s'asseoir à l'écart, à la distance d'un jet de flèche, car elle se dit « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle s'assoit donc à l'écart et se met à pleurer. Dieu entend l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appelle Agar. « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Debout, prends ton fils et tiens-le par la main, car je ferai naître de lui une grande nation. » Dieu ouvre les yeux d'Agar et elle aperçoit un puits. Elle va y remplir l'outre et donne à boire à son fils. Agar est tout près du puits, mais elle l'ignore, et cette ignorance aurait pu être fatale. Plus encore que les gémissements et les pleurs de la mère, Dieu entend l'enfant crier, comme si cela lui remémorait la promesse faite à Abraham. Puis, Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle voit ce qu'elle n'a pas vu jusque-là. Notre ennemi Satan essaie d'aveugler notre intelligence pour nous empêcher de voir briller la lumière de l'Évangile. Mais, pour nous permettre de boire, Dieu nous accorde une révélation. Tous ceux qui entendent la bonne nouvelle de l'Évangile connaissent la source qui désaltère. À l'écoute de la parole de Dieu, les yeux s'ouvrent et l'ignorance disparaît. Alors, il suffit, comme l'a fait Agar, de venir à la source et de se servir. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Colossiens, je cite, chapitre 2, versets 9 et 10, « Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Bien-aimés, puisque vous êtes à l'écoute, on peut dire que pour vous, l'obstacle de l'ignorance n'existe plus. Mais il en est un deuxième qui a empêché bien des gens de boire, avec les conséquences négatives que l'on sait, et qui peut facilement nous concerner et nous faire passer à côté de la grâce de Dieu. Ce deuxième obstacle est le mépris de la source. Le prophète Ésaïe déclare, je cite, chapitre 8, verset 5 et suivant, « L'Éternel m'a encore parlé et a ajouté, « Puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement et qu'il s'est réjoui à cause de Rezin et du fils de Remaliaou, à cause de cela, le Seigneur va faire monter contre les puissantes et grandes eaux de l'Euphrate, à savoir le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Il grossira dans tous ses canaux et débordera sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, le submergera et l'inondera jusqu'à la hauteur du cou. Parce qu'elle coule doucement, le peuple méprise les eaux de Siloé. En conséquence de cela, les contemporains d'Ésaïe subissent une invasion hors norme, celle du roi d'Assyrie et de ses troupes nombreuses. chemin faisant, Jésus croise un homme aveugle de naissance. Ses disciples saisissent l'occasion pour l'interroger. « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? À cause de son propre péché ou du péché de ses parents ?» Question récurrente lorsqu'un malheur nous frappe ou atteint un de nos proches. Un certain jour, quelques personnes informent Jésus d'un massacre perpétué par Pilate contre des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Réponse de Jésus, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. La question ne doit pas être qui a péché, car tout individu est concerné. Et comme l'apôtre Paul l'écrit aux Romains, je cite, « La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » La question doit être celle-ci. Comment puis-je bénéficier du salut de Dieu ? Jésus en a indiqué la voie. Marc, chapitre 1, verset 15, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » À la question posée par ses disciples à propos de l'aveugle, Jésus répond, je cite, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. » Après avoir dit ces mots, Jésus crache par terre et fait un peu de boue avec sa salive. Il frotte les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure au réservoir de Siloé. » L'aveugle y va, se lave la figure et, quand il revient, il voit. Alléluia ! Magnifique résultat pour cet homme aveugle de naissance. Pas de mépris concernant les eaux de Siloé. Non, simplement obéissance et foi suite à l'intervention de Jésus. Cet homme va rapidement découvrir qui est Jésus. Pressé de questions concernant sa guérison, il répond, je cite, « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux puis m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et d'un coup j'ai vu clair. Sa guérison, intervenue un jour de sabbat, fait débat parmi les pharisiens. Alors il lui demande encore, « Et toi que dis-tu de celui qui a guéri tes yeux ?» Réponse, c'est un prophète. Et la conversation, comme on dit, va tourner au vinaigre. Cette conversation est rapportée en détail par l'évangéliste Jean au chapitre 9. Elle se termine par l'excommunication de l'aveugle qui maintenant voit clair. Il est taxé d'arrogance. Je cite les pharisiens. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ? Et ils le chassent de la synagogue. Jésus apprend qu'ils l'ont chassé. Il le rencontre et lui demande, « Crois-tu au Fils de Dieu ?»« Dis-moi qui c'est, maître, répond l'homme, pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui. Quelle expérience extraordinaire pour cet homme né aveugle. Sa route a croisé celle de Jésus. Disons plutôt que Jésus a croisé sa route, comme aujourd'hui par la prédication de l'Évangile, Jésus croise notre route. Pas de mépris pour les eaux de Siloé. À partir de là, guérison et découverte de la personne de Jésus. D'abord l'homme, puis le prophète et enfin le Fils de Dieu. Alléluia ! Le troisième obstacle présente parfois une difficulté importante, car le surmonter donne à certains un sentiment de trahison à l'égard de l'héritage laissé par les pères. C'est la tradition. Pour sa survie, Jacob fuit la colère de son frère Ésaü, qu'il a astucieusement dépossédé de son droit d'aînesse. Il part en direction de l'Orient. Un jour, il voit un puits dans la campagne. Il y a là trois troupeaux de moutons et de chèvres au repos, car c'est à ce puits qu'on abreuve le bétail. Une grande pierre enferme l'ouverture, et on attend que tous les troupeaux soient rassemblés pour rouler la pierre. En interrogeant les bergers, Jacob découvre qu'il est arrivé au pays de ses ancêtres. Jacob leur dit « Il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Réponse « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Et voici que Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, arrive avec le troupeau de son père. Alors il s'approche, roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et fait boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Il passe outre la coutume et le troupeau est abreuvé. Un jour, des pharisiens et des spécialistes de la loi interpellent Jésus en disant « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils aux règles transmises par nos ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon la coutume avant de manger. » Réponse de Jésus « Et vous ? Pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour agir selon votre propre tradition ? Dieu a dit en effet « Respecte ton père et ta mère » et aussi « Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. » Mais vous, vous enseignez que si quelqu'un déclare à son père ou à sa mère « Ce que je pourrais te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu », il n'a pas besoin de marquer pratiquement son respect pour son père. Vous annulez ainsi l'exigence de la parole de Dieu pour agir selon votre propre tradition. Chaque peuple a ses traditions. Ce ne sont toutefois que des prescriptions humaines, très diverses, parfois dommageables pour l'intégrité de la personne humaine, de vrais dangers contre lesquels l'apôtre Paul met en garde les chrétiens de Colosse. Je lis « Prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elle se fonde sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. » Je termine ce partage en rappelant l'invitation lancée par Jésus, la source qui désaltère, à tout humain qui a soif de justice, de paix et de bonheur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être. La source est disponible. Alors, quand on a soif, la route est toute tracée. Bien-aimé, viens à lui. Dis-lui simplement ta souffrance, tes attentes. Dis-lui ce que ton cœur désire. Amen.